Nous demain. Une émission de Jean-Pierre Estrampes. Architecture. Urbanisme. Cadre de vie. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet d'actualité qui apparemment l'est depuis longtemps, enfin depuis quelques années, et va le devenir dans les années qui viennent. C'est l'intelligence artificielle, l'IA. Alors, effectivement, je parle après le pape, hein, et je n'ai aucune prétention de me comparer à lui, mais effectivement, puisque ça touche à la fois la religion, puis on a entendu aussi des déclarations récentes sur de Bill Gates que l'IA allait réduire le nombre des emplois de 90%, tout ça est assez, on peut dire d'un côté, très négatif et anxiogène. Et puis, bon, il y a aussi une autre manière de voir les choses. Alors, je rappelle le titre de l'émission qui s'appelle « Où vivons-nous demain ?». Alors, pour ceux qui m'écoutent, on sait que c'est sur un mode ironique, puisque, en fait, je ne prétends absolument pas à prédire l'avenir, mais au contraire, j'avais repris le titre d'un ouvrage qui était paru sur l'architecture et sur l'urbanisme et sur nos modes de vie dans l'après-guerre, et cet ouvrage par c'était un journaliste tout à fait compétent qui avait écrit ça en s'appuyant sur les rapports d'expertise, Michel Ragon. Et quand on le reprend aujourd'hui, on se rend compte que tout est faux et que tout ce qu'il avait prévu ne s'est pas passé. Donc je me méfie beaucoup des experts, futurologues, qui prédisent l'avenir, en bien ou en mal d'ailleurs. Et si on prend par exemple des exemples récents comme le téléphone portable, vous pouvez regarder tous les films de science-fiction, on a des grands écrans, on a des lunettes 3D, mais personne n'avait prévu qu'on aurait cet outil qui aujourd'hui est indispensable à tout le monde et qui fait tellement de choses au-delà de la communication et ça n'a pas été prévu. Donc, il faut avoir par rapport à cela, oui, et puis il y a aussi d'autres types. Pour revenir par exemple sur le bâtiment, on avait prévu la domotique. Alors la domotique, il y avait des sociétés, des experts, pour brièvement rappeler pour les plus jeunes ce que c'était, la maison, l'appartement, qui allait être câblé avec des réseaux de câblage. Et moi, le premier, en tant qu'architecte, j'avais prévu dans les bâtiments des câblages, donc des réseaux en sol. Alors, il y a des câbles qui passent. L'électricité, par exemple, est totalement nécessaire. Mais ce qui était prévu, et ce que l'on peut voir, par exemple, dans le film Brasil, où on voit De Niro qui saute avec un filin d'un appartement à un autre, et il y a des énormes tubes, c'est assez monstrueux, anxiogène, et en fait, tout ça ne s'est pas passé. Alors, il y a effectivement le poids de la technique, mais on n'avait pas prévu que les réseaux Wi-Fi allaient transformer cela. Et je me souviens très bien, une histoire personnelle, mon fils qui était aux États-Unis, qui travaillait avec Microsoft, justement, Je lui avais parlé des projets que j'étais en train de faire avec toutes ces ces doubles planchers et des systèmes de gaines métalliques que j'avais mis au point, qui servaient également de calage, etc. Mais il m'avait dit ah, on est en train de trouver un truc là qui va sortir dans quelques mois et on n'aura plus besoin de câbles. Alors, évidemment, ça me paraissait quelque chose de totalement incroyable. Et ça s'est passé exactement comme cela. Et on a totalement oublié, ne serait-ce que l'expression qui était « vous êtes câblé », qui avait été employée par le président Mitterrand pour les plus anciens. Donc, je fais cette petite parenthèse sur l'architecture, mais on pourrait continuer aussi sur l'architecture. On a prédit depuis bien longtemps des machines robotisées qui allaient construire des maisons. Bon, on se rend compte qu'en fait, ça n'a pas construit grand-chose de performant et que dans ce domaine où on prévoit que des robots vont remplacer les humains, je suis tout à fait sceptique parce que un grand nombre de travail, ne serait-ce que la réparation des appartements ou des lieux où on habite ou où on travaille. Et c'est très difficile à robotiser parce que ce sont des jugements qui dépendent des gens. Donc l'invasion de ces robots aidants qui vont être des serveurs, qui vont aider les personnes âgées, etc., ça me paraît assez compliqué. Alors, il y avait récemment une émission où il y avait Philippe Alexandre, qui est un entrepreneur, médecin, chirurgien, il est énarque, enfin bon, ou HEC, enfin il est surdiplômé, et alors je ne sais pas si c'est lui-même qui s'est autoproclamé le plus grand spécialiste de l'intelligence artificielle, mais en tout cas, il apparaît comme tel sur les plateaux télé et radio. Et donc, sa technique est assez connue pour se faire embaucher dans les médias. Il fait des projections d'avenir toujours époustouflantes, et notamment les chirurgiens vont être vite remplacés par des machines. Et la semaine dernière, il disait « nous allons vivre, nous pouvons vivre jusqu'à 1000 ans ». Et il annonçait la durée de vie moyenne qui pourrait être de 150 à 200 ans. Et effectivement, ça fait le buzz, comme l'on peut dire. Mais il est spécialiste de cela, de ces prédictions à la fois positives pour certains, apocalyptiques pour d'autres, et notamment... Il avait beaucoup parlé des implants que l'on mettrait dans les cerveaux des gens qui en ont besoin, c'est-à-dire que lui, évidemment, n'en avait pas besoin, mais comme il y a beaucoup de gens qui en avaient besoin, on allait leur mettre des implants pour compenser leur soi-disant débilité intellectuelle. Alors déjà, sur un plan philosophique humain, la chose me paraît non seulement évidemment improbable, mais en plus ça serait extrêmement choquante parce que Il considérait que les gens qui n'avaient pas de diplôme, ils pourraient acquérir l'équivalent d'un diplôme avec un implant. Et je pense que l'intelligence n'est pas liée à ce savoir-faire intellectuel qui est fait souvent de beaucoup de brio, mais pas du bon sens, on pourrait dire, dont on essaie de parler ici. Donc, pour reprendre sur l'intelligence artificielle, on a donc un discours très, très négatif du pape, et là c'est toujours pareil, c'est-à-dire que cette intelligence va dépasser l'humanité, et j'ai déjà dit dans d'autres émissions que j'étais totalement sceptique, tout en étant également fasciné par l'outil, ne serait-ce que l'outil de ChatGPT, et puis aussi la production d'images, et notamment pour l'architecture. Donc on va marquer une pause musicale, et puis je vais reprendre sur le thème de l'IA. Bye.
is melody? What good is music if it ain't possessing something sweet? Now it ain't the melody and it ain't the music. There's something else that makes this tune complete. Yes, it don't mean a thing if it ain't got that swing. It don't mean a thing, all you got to do is sing. It makes no difference if it's sweet or hot. Just give that rhythm everything you've got. Yes, don't mean a thing if it ain't got that swing. It don't mean a thing, don't mean a thing if you ain't got that swing, boy. I said don't mean a thing, and all you got to do is sing like la 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 la. Now it makes no difference if it's sweet or hot. Just to give that rhythm everything you got. Oh, don't mean a thing, boy, if it ain't got a swinger. Take it, chummy.
Reprenons sur l'intelligence artificielle. Alors je vous disais, par rapport aux pratiques que l'on peut avoir très facilement avec ChatGPT, et aussi l'intelligence artificielle est capable de créer des images. Alors on dit, mais c'est une révolution extraordinaire, mais très dangereuse, parce qu'on arrive à truquer des images, on ne voit pas, et tout le monde le voit sur les réseaux, on peut arriver à faire des fakes, comme l'on dit, très facilement, et on s'y tromperait. Alors, évidemment, les journalistes sont très inquiets, et on va être envahi par des fausses données. Mais si on reprend dans le temps long de l'histoire de l'humanité, on n'a pas besoin d'aller très très loin, parce que l'image numérique, c'est puisqu'il s'agit de celle-là qui est facile à composer et à trafiquer, c'est quelque chose tout à fait récent, c'est il y a quelques décennies. Alors déjà, avec la photographie argentique, le trucage était possible, mais enfin, il pouvait être détecté. Donc, et la photographie, je vous le rappelle, c'est quand même le milieu du 19e siècle et le tout début. Et qu'en fait, c'est vraiment une invention du 20e siècle. Et qu'avant, on n'avait pas ni les enregistrements, on avait des dessins, de la peinture et des histoires, et on pouvait raconter ce qu'on voulait aussi, avec la difficulté encore plus grande de vérifier, parce qu'aujourd'hui vous pouvez facilement justement vérifier, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle a créé la possibilité de faire ces fameux fakes, mais voilà aussi, il y a le contre-poison, et je vous raconterai une histoire tout à l'heure mais qui m'est arrivée ce week-end. Et donc, si on se place, comme je vous disais, sur le temps long, il ne faut pas oublier, par exemple, le tableau du couronnement de Napoléon par David. Il y a la mère de Napoléon qui est avec une couronne sur la tête, mais en fait, elle n'y était pas. Donc, c'est Napoléon qui l'a demandé à David qu'on la rajoute. Donc, en fait, les tableaux sont menteurs, et puisqu'on peut en faire ce que l'on veut, et je pense que les peintres ne se sont pas gênés pour cela. De même, les écrivains, les histoires qui ont pu être racontées. Donc, la question du fake, c'est simplement, on peut dire, notre intelligence à nous, qui va être capable de le détecter, de mettre en doute ce qui n'est pas, ce qui est douteux, et de le corriger. Donc, le monde, quelque part, ne change pas beaucoup. Oui, alors j'étais en train de vous dire l'anecdote. Il y a sur les réseaux, et notamment sur Facebook, une citation de Robert Badinter. Alors Robert Badinter a été panthéonisé. Bon, je n'ai pas besoin de vous rappeler qui était Robert Badinter, grand avocat français, qui a été ministre de la Justice et que l'on considère comme une grande conscience morale. Et on a une photo de lui avec un texte qui parle de la montée du fascisme, et où il dit que le fascisme, il arrive lentement, on ne le voit pas, il est caché, et puis après il est trop tard. Et ce texte sur le fascisme caché, d'abord historiquement, mais enfin je vais en parler, mais venant de la bouche de Badinter, ça me semble un peu bizarre pour plusieurs raisons. D'abord, Badinter est juif, et on peut dire ce propos sur le pouvoir caché qui est dans l'ombre, ça a été la manière dont on a et que l'on continue d'ailleurs à instrumenter contre les juifs, les antisémites ont toujours parlé de la main invisible et du pouvoir caché. Donc c'était déjà un peu trouble. La deuxième chose, c'est que c'est un homme qui a vécu la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, la montée du nazisme n'a pas été du tout, et du fascisme d'ailleurs, n'a pas été du tout faite à bas bruit, cachée, mais c'était exactement le contraire. Alors, vous avez aujourd'hui d'ailleurs des documentaires, on parlait du pouvoir de l'image à l'instant. Et il y a sur les chaînes, sur Arte d'ailleurs, quelques semaines, sur les chaînes parlementaires également, il y a des documentaires qui montrent la montée du nazisme. Et la montée du nazisme, ça a été fait, on peut dire, d'abord par une poignée de personnes, et puis petit à petit, et tout est fait par une extrême violence, les démonstrations publiques, c'est-à-dire que tout le problème, c'était d'occuper l'espace devant et de faire peur aux gens. Donc c'était les grands oriflammes, Hitler, il avait des uniformes, il a monté des organismes paramilitaires comme le SA, puis après les SS. Enfin, c'était exactement le contraire. C'est-à-dire que le fascisme arrive prend l'espace public avec une violence extrême. Bon, alors, pourquoi je vous rappelle ça? C'est que ce doute-là, je me suis dit, tiens, je vais poser la question à ChatGPT. Et alors, puisque le propos était daté, il s'agissait de 18 mars 1985, Badinter a dit ça. Donc, c'était extrêmement précis. Et je raconte quand même pour la petite histoire, c'était instrumenté par Madame Guettet, Clémence Guettet, qui est députée LFI. Et donc, ChatGPT me dit, ils font la recherche dans le dixième de seconde, on l'a, et on dit, non, Badinter n'a pas dit ça à cette date. Alors, je pose la question immédiatement, et on me dit non, puis Badinter ne l'a pas dit du tout. Et donc, la question, il y a une recherche sur tous les discours de Badinter qui est fait à une vitesse absolument incroyable. Et là, on est vraiment sur quelque chose d'absolument admirable dans la rapidité quand on fait ce qui, je fais actuellement un travail de recherche historique sur l'architecture du XXe siècle, des éléments que j'ai oubliés ou qui me manquent ou des questionnements. Alors, il est évident que c'est quelque chose qui aussi c'est classifié. Ça veut dire que ça ne vous donne des choses que celles qui sont déjà enregistrées. Et donc, ce n'est pas l'intelligence artificielle qui va, pour le moment, inventer des choses nouvelles sur un plan de l'histoire. Donc, cette anecdote que je vous raconte est quand même illustrative de l'époque actuelle, où effectivement, on peut à la fois dans les réseaux diffuser des informations qui sont fausses et avec certainement des stratégies bien planifiées pour leur diffusion, mais à même moment en avoir la contradiction. Alors, pour revenir à l'architecture et sur ce qui est dit dans les médias par rapport à l'influence de l'intelligence artificielle sur l'architecture, c'est assez curieux parce que l'architecture apparaît en première ligne comme faire partie des métiers qui vont être touchés par cela. Ma position, elle est totalement inverse. Je pense que ça fait partie justement des irréductibles. Alors, par exemple, quelqu'un comme Michel Onfray, que l'on connaît, a dit ah ben, les architectes seront les premiers touchés. Puis il y a un économiste dans l'Express que j'ai lu récemment, le professeur Harvard, je crois, qui a dit à peu près le même propos pour les plans. Mais il faut dire à ces braves gens que le métier d'architecte n'est pas de reproduire des plans, parce que les photocopieuses font ça très bien. Et on peut, avec une paire de ciseaux, de la colle, monter des assemblages de plans, et on n'a pas besoin de l'intelligence artificielle pour cela. Ce type de montage peut être fait, comme je vous disais, artisanalement. Mais le problème de l'architecture, la finalité de l'architecture, c'est de construire. Et là, c'est une autre paire de manches. Donc, ce n'est pas faire des plans et faire des belles images qui vont enjoliver une réalité qui ne l'est pas. Et c'est trop souvent aujourd'hui ce que l'on voit en architecture, c'est que on demande aux architectes de faire des belles images, et puis on se rend compte que une fois que les choses sont construites, elles ne correspondent pas du tout à l'image. Donc, c'est vrai que l'intelligence artificielle a permis cela, et je pense, et ça c'est mon opinion, c'est que c'est un retour en arrière, parce que on peut justement facilement truquer ce qui était beaucoup plus difficile et qui demandait un travail de l'interlocuteur, et l'interlocuteur qui était donc ce qu'on appelle le maître d'ouvrage, qui était le client, celui qui fait construire et on lui demandait un effort, on avait une communication qui était de personne à personne et pas des séductions d'images que l'on peut voir dans des compétitions, des concours, et qui représentent des rêves et pas des réalités. Donc, de ce côté-là, je pense que l'intelligence artificielle, alors, ne nous trompons pas, Je suis pas idiot. Certains, il y a des choses, par exemple, qui sont des grands progrès avec l'informatique. C'est la faculté de transmission de données, des choses qui étaient compliquées avant. Il fallait faire des tirages, les envoyer, les modifier. Et on peut arriver, effectivement, aujourd'hui, avec Internet, à avoir des transferts et des modifications. Et tout ça, c'est des choses positives. Mais ça reste tout à fait un côté mécanique. Et donc, pour reprendre le début du propos, où je vous parlais de Laurent Alexandre parlait d'un chirurgien qui pourrait être commandé par l'IA, et il parlait aussi d'un coiffeur. Alors, il disait, les coiffeurs, ça ne va plus exister, parce qu'on aura un robot qui va vous coiffer, et qui en plus de ça pourra vous donner des conseils esthétiques. Alors je regardais la semaine dernière sur Arte, il y avait un film qui s'appelle Mississippi Burning, qui est un film qui est assez vieux, avec Gene Hackman dans le rôle d'un policier dans un état du Sud raciste où on a contre les Noirs des horreurs, et puis on voit le déroulement de le combat de ce policier contre les racistes, et notamment, et là j'en viens à l'histoire du coiffeur. Il y a le shérif extrêmement raciste et qui a tué des Noirs, et donc il arrive, il prend la place du coiffeur, le coiffeur barbier qui est avec un couteau, et puis pour le faire avouer, il lui taillade le visage. Bon, l'histoire est très violente, mais elle m'a fait penser à un robot qui pourrait être programmé pour vous couper la gorge ou vous planter les ciseaux dans le cou, et qui pourrait faire un bon scénario de film de fiction. C'était Où vivrons-nous demain ? Je remercie Sacha qui est toujours brillamment à la technique, et les assistantes d'aujourd'hui qui sont Jenny Lee et Farah.